Je souhaitais remercier les organisateurs pour cette invitation à participer à ce colloque qui est toujours d'un très grand intérêt dans lequel on voit beaucoup de sujets de biologie délocalisée. On ne va peut-être pas tout à fait parler de ça pendant cette première session puisque je vais vous parler de l'innovation et de la digitalisation en milieu hospitalier avec un retour sur l'expérience du CHU de Bordeaux, d'abord sur le parc en place, mais aussi sur des perspectives d'innovation numérique. Alors c'est un travail qui est partagé avec la cellule de biologie délocalisée dont je vais vous donner un mot de structuration, un petit partenariat avec notre cellule qualité du pôle de biologie et je voulais remercier le travail très rigoureux de notre cadre Xavier Dillotte sur le sujet qui nous a hélas prématurément quittés. Alors tout d'abord le CHU de Bordeaux, très rapidement, on va en retenir juste deux choses. C'est un hôpital qui a 3068 lits et places, qui a trois sites. Et pour la partie gauche de la diapo, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a 3600 infirmiers et 3000 aides-soignants et auxiliaires de puériculture. Et ça peut avoir son importance pour le sujet qui nous préoccupe. Alors comment nous sommes organisés au niveau de la biologie délocalisée, un peu comme ça se fait dans de plus en plus d'établissements. Je suis le coordonnateur médical de ce que l'on appelle la cellule de biologie délocalisée qu'on a créée en 2018, qui comporte quatre techniciens de laboratoire qui sont dédiés du lundi au vendredi. Nous travaillons en partenariat avec énormément de secteurs différents, que ce soit les labos centraux, que ce soit bien sûr les services supports que peuvent être l'informatique, le biomédical, etc., les fournisseurs. Bien sûr, la cellule qualité du pôle de biologie, qui a notre responsable qualité dans la définition de la dernière version de la norme. Pour ma part, je suis responsable de la formation, puisque c'est une nouveauté également de la version 2022 de cette norme. Et nous collaborons avec les biologistes des secteurs concernés quand il y a différentes disciplines. Moi, je suis plutôt sur le secteur biochimie, mais nous avons bien sûr des collaborateurs en hémostase, hématologie ou virologie. D'ailleurs, Céline de la Sassaigne parlera dans la communication suivante, mais sur un autre thème. Alors, nous avons maintenu le groupement de professionnels des EBMD qui peut prendre quelques décisions. Alors, je vous parle de BMD, mais en fait, aujourd'hui, le topo porte, on le voit plutôt, sur quelque chose qui s'appelle un signal biologique. Et il est bon de souligner quelles sont les grandes différences entre les EBMD et les signaux biologiques. Alors, d'une part, en biologie délocalisée, au sens strict, la responsabilité légale est sur les épaules du biologiste, alors que côté signaux biologiques, ce sont d'autres professionnels de santé. Nous avons côté biologie délocalisée, vous le savez très bien, le respect normatif et puis une accréditation obligatoire, alors que côté signaux biologiques, ça n'est pas le cas, il n'y a ni normes ni accréditation, mais malgré tout, et c'est souvent oublié, il y a une démarche qualité qui est déroulée dans l'annexe 2 de l'arrêté initial qui décrit ce qu'est un signal biologique. Alors sur Bordeaux, la cellule de biologie délocalisée dont je viens de vous parler et que je coordonne s'occupe du parc de glucomètres de façon un petit peu historique suite à un événement indésirable grave qu'il y a eu il y a une douzaine d'années avec une injonction de notre direction et du président de la CME de sécuriser ce parc, d'où l'implication majeure de la biologie. Alors, cette implication sur le glucose capillaire, elle est quand même pas tout à fait anecdotique, parce qu'en effet, ce glucose capillaire, il sert dans la réalité quotidienne à ajuster l'insuline des patients. Il ne faut pas croire que l'ajustement ne se fait que sur des envois d'un tube au laboratoire. Et quand on regarde des recommandations, que ce soit de l'HAS ou reprises par la Fédération française des diabétiques, alors certes pour l'autosurveillance, mais malgré tout, on voit bien qu'immédiatement, il est question aussi d'insuline, on voit bien que dans cette autosurveillance déjà, et ça se voit après sur la prise en charge hospitalière, ce sont bien sûr plusieurs niveaux de glucose capillaire qui sont ici cités sur cette diapo que sont prises en charge des décisions d'ajustement de l'insuline. Donc il y a un risque patient, lequel risque est quand même aussi malgré tout assez cher à la nouvelle version de notre norme. Alors, quel est notre parc actuel au CHU de Bordeaux? Sur la partie gauche, nous travaillons avec la société Roche et nous avons 372 automates ACI2 qui sont connectés. Ils fonctionnent en Wi-Fi, la base ne sert qu'à faire le rechargement de la batterie. Et ils sont dispersés dans les services de soins selon une cartographie qui est parfaitement maîtrisée et grâce au logiciel centralisateur, le middleware, qui est le Cobas Infinity POC. Et nous avons également un parc de glucomètres, toujours Roche, qui sont non connectés, parce qu'en effet, on ne va pas déployer partout la connexion. On va s'appuyer surtout sur le besoin et dans des, on va dire, des services qui ont par exemple 2-3 glycémies par mois sur des consultations. On va privilégier une notion de non-connectivité. Mais malgré tout, on essaie d'avoir aussi une démarche qualité. Et quoi qu'il en soit, pour ces deux appareillages, on a un consommable qui est unique, tant au niveau de la bandelette que des contrôles qualité, ce qui permet de simplifier la gestion. Alors très rapidement, ces appareils, je vous l'ai dit, fonctionnent en Wi-Fi, et ils se sont donc connectés sur le Cobas Infinity POC. De là, il y a une remontée sur notre cil qui est à Bordeaux et le GLIMS. Alors il n'y a pas de validation au fil de l'eau par les biologistes. On a choisi la libération de cette part de validation, mais avec l'accompagnement de messages à visée de conseils pour les services cliniques. Et également, c'est un parc sur lequel il n'est pas possible de se servir de ces glucomètres si toutes les 24 heures ne sont pas passées des contrôles de qualité. C'est bloquant et le résultat va ainsi remonter sur des X-Care. Sur la partie droite, c'est certainement pas intéressant de le lire en détail, mais c'est pour vous montrer notre volume d'activité qui est important. On a à peu près 15 fois plus de glucose capillaire qui sont faits que de glycémie qui arrive au laboratoire, avec une activité qui d'année en année se maintient et voire même diminue un petit peu, ce que je trouve pour ma part sécurisant parce que ça veut dire qu'il y a une bonne maîtrise de la prescription médicale et que ça n'est pas parce qu'il y a des équipements nombreux dans de tout aussi nombreux services de soins qu'il y a une explosion et une absence de maîtrise du besoin médical. Alors nous avons évidemment des outils en place. Ce matin ont été évoquées à plusieurs reprises la difficulté de gérer les habilitations des utilisateurs. Alors, bien sûr, nous gérons tout ce qui est EBMD au sens strict, ne serait-ce que sur la gazométrie, parenthèse, nous avons à peu près 1700 utilisateurs en cours sur le CHU de Bordeaux. Et au niveau des glucomètres, nous en avons un grand nombre également, avec des outils qui sont mis à disposition sur l'intranet du CHU pour aider à ces possibilités d'accès à des e-learning, habilitation, etc., puisque tous ces glucomètres fonctionnent finalement grosso modo comme une gestion de biologie délocalisée. Seuls les opérateurs formés et habilités peuvent y accéder. Une petite parenthèse également, selon laquelle eh bien, en biologie délocalisée et signaux biologiques, il faut toujours se tenir un peu au fait de l'actualité, c'est qu'on sait que depuis 2021, un nouvel arrêté a ouvert la possibilité de l'accès au glucose-glucomètre aux aides-soignants et aux auxiliaires de puériculture, ce qui n'est pas une mince aventure quand on gère ce parc comme on le gère à Bordeaux, puisqu'on a quand même 3000 du coup personnels de soins qui arrivent subitement sur un appareil qui ne maîtrise pas nécessairement. Donc nous travaillons avec la direction des soins et quelque chose va se mettre à se dérouler à partir de 2024 pour faire une information à des aides-soignants parfois anciens qui peuvent ne pas connaître tout l'impact de variations de glucose au plan médical pour les informer de ce risque patient derrière et de la meilleure gestion possible. Et nous avons plusieurs outils qui sont en place, dont des tutoriels accessibles sur l'intranet. C'est un travail en cours. Alors tout cela est sur l'environnement digital Cobas Infinity POC, comme je vous le précisais, sur lequel nous avons d'ailleurs d'autres dispositifs, dont des HemoQ, sur lesquels nous suivons les contrôles qualité, bien qu'ils ne soient pas connectés dessus, mais nous suivons les contrôles qualité qui sont inscrits, et nous avons un appareil de gazométrie au milieu d'un parc qui est branché sur notre middleware, qui est également suivi. Alors on ne va pas regarder en détail, bien sûr, mais sur ce middleware, comme sur la plupart des middleware, on peut suivre beaucoup d'informations relatives aux appareils. Je vous ai mis des petites icônes, par exemple ceux qui ne sont plus connectés à gauche ou qui auraient un problème de panne, quand ça va bien à droite, avec les informations, des numéros de série, des endroits où ils sont, des services, etc. Le suivi possible des CQI, par appareil également, avec les informations sur les niveaux de l'eau, sur les résultats, tout cela est extractible, avec la possibilité de documenter nos CQI, et c'est assez intéressant pour remonter vers les services de soins avec des indicateurs qui permettent de renseigner sur la bonne utilisation ou des dérives possibles. Et puis, bien sûr, je vous l'ai dit, l'accès aux habilitations, avec ici trois exemples de trois opérateurs. Un en vert qui va avoir son habilitation en cours ou son maintien de compétences, il peut continuer à travailler. Celui en rouge, qui tout simplement a pu quitter le service ou qui a oublié de faire son maintien de compétences, et c'est à nous de revenir vers lui. Ou bien celui qui est dans, on va dire, une période probatoire où il a quelques semaines devant lui pour passer son habilitation. Alors dans ce contexte général qui est le nôtre de l'organisation des glucomètres, nous avons été sollicités pour être bêta-testeurs aux côtés de deux autres établissements pour le nouveau glucomètre Pulse de Roche, et le CHU a signé un contrat d'études analytiques avec Roche avec plusieurs objectifs. D'une part, l'évaluation des performances analytiques, mais c'est surtout le CHU de Nantes qui a fait le plus gros travail là-dessus. D'autre part, des retours pratiques sur le terrain de l'ergonomie, de la faisabilité. Et là, nous nous sommes rapprochés de services de soins, vous allez le voir. Et enfin, la notion de l'innovation numérique et des possibilités qu'offre ce nouveau dispositif pour aller un petit peu plus loin que faire seulement du glucose capillaire. Alors voilà cet appareil, le Pulse. Alors je vous rappelle en bas à gauche l'appareil actuel qui est la CI2. Donc vous voyez à échelle équivalente à quoi ressemble le Pulse avec des innovations, on va dire, de prise en main. Un petit mot sur les deux bandelettes que vous avez en bas à droite qui n'ont plus tout à fait la même morphologie, si l'on peut dire. Et puis quelque chose d'important sur lequel nous assisterons en fin de diaporama, qui est l'existence non plus d'une scanette pour prendre le numéro de lot, le badge opérateur ou l'identification patient, mais une vraie caméra appareil photo et qui va offrir des possibilités que nous allons dérouler. Alors je vous ai dit que cette convention était en 3 étapes, donc voilà la première. Au laboratoire, bien sûr, nous avons d'abord voulu nous mettre dans une situation de vrai terrain et pour ce faire, nous avons voulu connecter ces appareils qui étaient en prêt. Nous les avons connectés à notre middleware, Cobas Infinity, en nous servant de la technologie Edge Smart qui permet de télécharger plus facilement à partir d'un cloud toutes les paramètres nécessaires pour la mise en place. Et bien entendu, nous ne faisons pas remonter sur le middleware de production des résultats de test. Nous les avons donc laissés en middleware de test parce que nous fonctionnons sur Bordeaux, quel que soit notre middleware, avec une plateforme de production et une plateforme de test dès lors qu'il y a une mise à jour, un essai, etc. Donc une fois qu'ils ont été connectés, nous avons fait les tests classiques sur lesquels je vais passer très vite. Comme je vous l'ai dit, c'est surtout Nantes qui a fait un très gros travail sur les performances analytiques et nous sommes cohérents avec eux dans les résultats. Donc nous avons regardé la linéarité sur plusieurs appareils qui est conforme. Je vous présente ici des iconographies qui sont issues directement du middleware pour ces études-là. Des tests de répétabilité exactement également qui ont été faits sur plusieurs appareils qui répondent également aux exigences fournisseurs. Et nous avons fait des tests de transférabilité, puisque on sait bien qu'on peut avoir du glucose qui arrive de plusieurs origines d'automates dans un CHU. Et au CHU de Bordeaux, eh bien, soit vous pouvez envoyer des tubes fluorés au niveau du laboratoire, nous sommes sur une solution architecte à BOT, ou bien on peut avoir le glucose sur des appareils de biologie délocalisée de gazométrie, et nous avons une solution GEM 4000 ou 5000 qui est largement déployée. Et enfin, je vous l'ai dit, nous avons deux types de glucomètres, plus le Pulse qu'il faut tester. Ce qui fait que sur un échantillonnage de 18 patients qui avaient des tubes éparinés, nous l'avons testé sur des tubes éparinés de prescription sur les résidus de soins arrivant au laboratoire, nous avons comparé nos 5 dispositif et vous en avez ici la représentation patient par patient avec la légende est en bas, le choix de se comparer à l'appareil de référence qui est l'architecte en orange et j'ai positionné plusieurs seuils, alors bien sûr le seuil de diagnostic à 1,26, j'exprime ici les résultats en grammes par litre et puis on va dire un choix d'autres seuils pour voir un petit peu quelles sont les indications que ça peut donner, donc vous avez un seuil dit de prédiabète à 1 gramme par litre et puis des seuils plus extrêmes allant même jusqu'au risque de coma, que ce soit hypo ou hyper, pour voir un peu comment se comportaient nos glucomètres vis-à-vis d'une possible discordance de part et d'autre de ces seuils. Alors des discordances sur les 18 patients, nous n'en avons eu que 5, qui ne vont pas toujours dans le même sens, mais on va voir en les regardant d'un petit peu plus près qu'en fait les deltas ne sont pas monstrueux et en fait n'ont pas forcément une incidence sur le risque patient. Alors en effet ces discordances, on voit bien que en effet on a pu être au seuil de 1,26 sur les 4 patients, en plus on a choisi un petit peu au hasard nos patients, donc on n'était pas forcément à proximité des seuils que l'on voulait étudier. Sur nos 4 patients à 1,26, en effet, on avait une discordance avec la référence du laboratoire, mais en fin de compte, on sait que pour un diagnostic, c'est 2 fois une prise de sang à jeun. Un diagnostic de diabète ne se fait pas sur un glucomètre, donc on peut déjà écarter ce cas-là, et la discordance était vraiment très faible en delta. Et dans les autres fourchettes où il y avait parfois des discordances avec le glucomètre qui était au-dessus, voire même au-dessous, ça dépendait de notre modèle de référence, eh bien, on voit que au plan clinique, il n'y a pas non plus d'inquiétude particulière à avoir, soit les deltas étaient extrêmement faibles, soit dans les valeurs très hautes de risque de coma en haut ou de très basses de risque de coma en bas, on avait de toute façon avec l'ucomètre déjà des valeurs extrêmement alarmantes qui étaient approximativement celles qu'on avait au laboratoire. Donc ça rejoint tout à fait les comparaisons qui ont été faites sur d'autres dispositifs à Nantes et qui soulignent les performances analytiques du résultat. Alors, je vous ai dit qu'il y avait trois étapes. Donc, voici la seconde qui est dans les services de soins cette fois-ci. On voulait voir un peu quelle était la faisabilité parce que tout se passe sur le terrain quand on est en biologie délocalisée et apparentée. Il faut une bonne compliance et surtout une bonne acceptation des services de soins pour que ça marche bien. Alors, notre objectif, c'était de demander à des services de soins, vous avez des patients sur lesquels vous faites un pic au bout du doigt, vous allez avoir une gouttelette et sur cette même gouttelette, il va falloir en premier lieu passer, faire le dosage avec le glucomètre qui est celui du CHU puisque c'est avec lui qu'on rend des chiffres et ensuite, par capillarité, faire monter le très peu de volume de sang sur le Cobas Pulse. Puisqu'ils sont tous les deux connectés, un en production, l'autre sur plateforme de test, nous allons pouvoir récupérer et comparer vos résultats sans que vous n'ayez rien de plus à faire, rien à noter. Vous travaillez comme si vous étiez avec un glucomètre que vous connaissez. Nous avons eu 7 services de soins qui ont joué le jeu et répartis sur les 3 sites pendant l'été 2023. Pour ce faire, nous avons d'abord pris contact avec différents cadres de soins. Nous les avons rencontrés en expliquant les objectifs, ce que ça imposait éventuellement comme charge au service, en leur disant que ce que nous cherchions dans chaque service, c'était 20 mesures maximum, pas plus, il ne fallait pas charger les services. Les cadres de soins concernés ont tous été globalement d'accord et ont souhaité nommer des ambassadeurs, c'est-à-dire ne pas demander pour si peu de dosage par service à éparpiller, laisser surtout leur service de soins, surtout en période d'été. Ces ambassadeurs, 2 à 3 par service, ont été formés par nos soins ou avec l'aide du fournisseur. Ils ont été formés, habilités, et nous leur avons laissé des appareils de prêt, ainsi qu'une fiche de satisfaction, et nous sommes revenus vers eux autant de fois qu'ils posaient des questions, et ensuite nous avons pu faire la synthèse. Alors nous avons pu établir ainsi finalement le recueil de 118 points comparatifs entre ACI2 et le Pulse, 127 au départ, mais on a exclu avec le test de Tuckey des discordances vraiment étonnantes au plan analytique que le test de Tuckey a permis d'éliminer, ce qui nous a permis de retenir 118 points. Nous avons exclu aussi quelques autres points qui avaient bizarrement des heures d'analyse, puisque l'heure d'analyse remonte, des heures d'analyse qui étaient très discordantes avec 15 minutes d'écart, où on a soupçonné que ce n'était pas du tout la même gouttelette de sang qui servait, et là il fallait exclure pour ne pas introduire de pied. Alors sur les 118 points conservés, vous pouvez voir ici sur ce nuage de points que ce qu'il ressort d'une gamme de 50 à 360 à peu près, c'est qu'en fait la CI2 tend à doser un petit peu au-dessus que le Pulse, ça c'est la première observation que l'on peut faire. On sait qu'on est dans une population hospitalière, donc vous voyez sur la gauche, on a quand même beaucoup de patients qui dépassent le 125 mg par décilitre. Ça reste une population qui a été choisie dans des services d'urgence ou des services conventionnels, mais enfin malgré tout hospitalisés. Et on a cette tendance qui est un petit peu plus forte au-dessus d'un seuil à 200 mg par décilitre d'avoir un Pulse qui dose un tout petit peu plus bas. Alors après, on peut se demander, est-ce que le delta est vraiment très significatif? Et quand on regarde le delta sur le côté, vous voyez que l'échelle n'est pas très très grande. Quand même, on a la majorité qui est un delta qui est à 0,15 g par litre. Enfin, on est à 10, 20 mg par décilitre. Alors, on peut s'interroger, on peut se dire, ah ben, est-ce que c'est la même bandelette, pas la même bandelette, est-ce que ça peut être fiable? Quand on regarde de très près la composition des deux types de bandelettes, il n'y a aucune différence significative, c'est la même méthodologie, c'est le même concept global au plan purement, on va dire, technologique. Et puis, un tout petit rappel, il faut savoir que toutes ces bandelettes répondent à une autre norme. Nous, on a la 1589, mais d'autres ont la chance d'avoir d'autres normes. Là, c'est la 1597, dans sa version 2013, qui impose aux fournisseurs de ne libérer sur le marché que des consommables qui sont strictement contrôlés avec ce qu'ils appellent la grille de Clark, où vraiment il faut être très resserré autour des valeurs attendues pour qu'ils aient l'autorisation de mise sur le marché. Donc on peut être quand même assez rassuré, et justement ce sont des points normatifs qui imposent l'introduction de la pertinence ou de la signification clinique sur ces consommables. Alors, je vous avais dit que dans les services de soins, hormis la réception de ces 118 points comparatifs, nous avons donné un questionnaire de satisfaction sur l'ergonomie, la faisabilité. Donc, le questionnaire, vous avez 2 parties. À gauche, c'est « Je pense quoi ?» de la CuCheck Inform 2. À droite, « Je pense quoi ?» du Pulse. Et j'ai 3 colonnes. « Je ne suis pas satisfait »,« Je suis moyennement satisfait » ou « Je suis très satisfait » en vert. Alors, ce que l'on peut voir, c'est qu'on a eu 19 réponses. Je vous ai dit qu'on n'avait que des ambassadeurs, hein, donc c'est pour ça que ça s'est restreint sur ce nombre-là. 6 services de soins ont répondu, le 7e ne nous a pas donné son résultat. Et si on ne regarde que la partie droite, comparée par rapport à la CUTCHEC, on voit que pour les peu satisfaits, il y en a un tout petit peu plus, il y en a 11% de plus, mais on va voir sur quel point on est. On voit que les satisfaits semblent s'effondrer de 37%, on se dit « oui, pourquoi ?» Mais les très satisfaits montent de 95%. Et dans l'analyse des points, vous allez voir qu'en fait, on a un shift du satisfait à très satisfait pour la majorité de nos partenaires collaborateurs. Sur cette représentation, je vous ai montré en blanc les items qui sont identiques, c'est resté équivalent pour les deux appareils. Ceux qui sont en vert, ça s'est amélioré par rapport à la CI2. Et ceux qui sont en rouge, c'est ceux qui ne sont pas satisfaits pour une raison ou pour une autre. Alors, la colonne centrale étant entièrement rouge, on peut se dire en première lecture, ça ne va pas du tout. Mais comme je vous l'ai dit, il faut penser qu'en fait, tout a shifté, si on fait une analyse fine de ces questionnaires, tout a shifté vers le satisfait à très satisfait. Sauf certains petits points. En effet, un petit bémol sur la taille de la bandelette. Il est clair que nous l'avons observé aussi côté laboratoire. Elle est un peu petite et donc pas forcément facile à manipuler quand on n'a pas l'habitude. Il faut s'habituer à cette transformation de taille. Et puis, un point que je dirais qu'il faut presque éliminer de l'analyse, parce que c'est sans doute, pour le coup, très spécifique, du moins notre observation au CHU de Bordeaux, nous avons un problème parfois de qualité de nos étiquettes, et les scans glucomètres et bien d'autres scans ne sont pas toujours très performants sur des étiquettes d'identification poisson qui sont pointillées ou grisées. Et donc ça, c'est un point d'insatisfaction de notre part sur lequel on travaille. Et la caméra photo du Pulse n'est pas arrivée à faire mieux sur une étiquette de mauvaise qualité. Mais finalement, là, on est un peu impacté par un environnement en amont. Par contre, ce qu'on observe, c'est qu'on a beaucoup plus de vert sur tout ce qui est ergonomie, c'est-à-dire la prise en main, la capillarité, la fluidité de l'écran. Et également, ce qui les a beaucoup intéressés, c'est ne plus avoir touché du tout la petite bandelette avec le sang qui montait par capillarité, puisqu'on peut l'éjecter par un bouton. Au final, ce qui est remonté vraiment, c'est une satisfaction de la prise en main et de l'ergonomie de l'écran et de la facilité des menus. Ce qui nous permet d'arriver maintenant à la troisième partie, cette seconde expérience dans les laboratoires de soins étant achevée, nous avons également mené une enquête sur les évolutions technologiques avec les évolutions numériques. Pourquoi ? Parce que je vous l'ai dit d'entrée de jeu, ce Pulse possède une caméra, appareil photo, et là on va pouvoir jouer avec un peu autre chose que seulement du glucomètre. Et puis, le Pulse a la capacité de travailler avec des applications de fournisseurs tiers. Et en effet, on trouve dessus, d'entrée de jeu, des choses qui n'existent pas sur le glucomètre que nous avions avant. C'est-à-dire on peut rentrer des résultats de cétonémie, on peut rentrer des résultats de tests de grossesse. Si on est intéressé, on peut également renseigner quelle est l'insuline, à quelle cinétique, quelle est sa marque, quelle est la dose. Voilà, ce sont des fonctionnalités qui peuvent intéresser ou pas. Et en interrogeant les services de soins, dans une pré-enquête, on va dire, on s'est aperçu qu'ils étaient très intéressés par la présence de l'appareil photo. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai dit, il peut y avoir des applications tierces. Celles qui sont déjà montées dessus, eh bien, par exemple, c'est Limito, qui peut parler de photographier des plaies et cicatrices. Et puis, également, le Clear Screen test nous a intéressés pour une application plus biologique. Alors, cette photo, moi j'y ai vu cette possibilité de faire des photos, j'y ai vu d'abord un intérêt biologique, parce que je suis biologiste avant que d'être dans les services de soins, et je me suis dit, ben voilà, peut-être un bon moyen de tracer les trodes, ceux qui sont toujours jetés sans aucune traçabilité, avec un recopiage plus ou moins aléatoire. En effet, là, on pourrait se dire, on va scanner notre étiquette patient, on photographie le trod, et hop, tout remonte dans le dossier patient, et ça me semble très intéressant. parce que là comme ailleurs, il y a beaucoup de trodes. Il y en a qui sont des purs signaux biologiques, mais il y en a d'autres qui sont quand même apparentés EBMD de très très près. Et la traçabilité n'est pas inintéressante dessus, parce qu'on peut se poser parfois quelques questions. Et puis toujours avec ce Cobas Infinity Edge Smart, puisqu'il y a des applications tierces qui peuvent être montées, et qu'on avait entendu parler de cet intérêt de photo pour des cicatrices, on a lancé un questionnaire, et au passage, on a aussi un peu posé des questions aux services de soins qui ont des lecteurs de bandelettes urinaires. On a en fait sur Bordeaux à peu près une trentaine de lecteurs de bandelettes urinaires qui sont dispersés dans le CHU. On en a la cartographie et une petite visibilité sur les contrôles de qualité, mais un certain nombre de services disent oui, mais bon, on aimerait, on en a un peu assez de recopier à la main, puis ça fait des erreurs, et puis on ne sait pas où c'est, puis c'est un petit papier qui traîne, etc. Et petite parenthèse avant d'en arriver aux cicatrices, grâce à l'application ClearStream par TestCard, le Pulse de Roche peut photographier la bandelette urinaire. Alors là, c'est validé sur le consommable Roche. Vous mettez votre bandelette à plat, vous prenez une photo et l'appareil va vous traduire les couleurs en vous donnant une indication des couleurs avec la possibilité d'identifier le patient. Et puis, ça remonte, la lecture de votre bandelette urinaire remonte sans appareil complémentaire avec votre glucomètre qui peut avoir d'autres utilités dans le service, remonte sur le dossier patient et vous avez la possibilité de modifier éventuellement le code couleur si vous apercevez qu'il est très discordant avec votre lecture visuelle, mais qui est très dépendante de l'individu, on le sait. Voilà une autre application potentielle du côté biologie. Alors pour l'enquête plaie cicatrisation, et j'en arrive à la fin, nous avons formaté avec notre cellule qualité du pôle de biologie une enquête rapide, il faut toujours que ce soit rapide, d'une petite quinzaine de questions qui peut se remplir en 10 minutes, même pas 6-7 minutes, sur quels sont vos usages et quels sont vos besoins quand vous faites des observations chez vos patients? Quelles seraient les fonctionnalités dont vous auriez besoin? Et qu'est-ce que vous faites surtout à l'heure actuelle? Donc là, on a eu, j'ai envoyé le questionnaire à 80 personnes avec possibilité de dispatcher dans leur service. Il y a eu 104 personnes qui ont été curieuses, c'est pas mal pour un envoi à 80, et qui ont ouvert le questionnaire. Et ceux qui sont vraiment arrivés au terme du questionnaire, c'est 68 personnes. Donc c'est un bon taux de réponse sur 80 destinataires. Quand on leur a dit, avez-vous des applications pour certaines observations? Certains nous ont répondu très peu, hein, 13 nous ont dit oui, on en a, mais parfois la question a été mal comprise, parce que parfois ils nous ont dit, l'application par exemple c'est le dossier patient, ou l'application par exemple c'est connecté, c'est le glucomètre connecté. Alors c'était pas tout à fait ça, on cherchait à savoir si on avait des applications qui permettaient de mesurer une cicatrice, ou voilà, c'était un petit peu ça qu'on attendait. Et on a eu une réponse qui a émergé du lot, on peut considérer que les autres finalement n'avaient pas tant d'applications que ça. Sur les 13, on a eu une réponse qui a émergé du lot dont je vais vous reparler, qui est le CleverNet. Et puis les autres ont tous répondu ah ben non, on a plein d'applications. Alors ils ont beau répondre non, il y en a 44 sur 68 qui nous ont dit dans notre service on fait bel et bien des photos. Et on fait des photos de quoi? D'escarres, de plaies, de brûlures, de cicatrices, parfois autre chose, des traumatismes post-agression, des orifices de caté, des choses comme ça. Et on en fait en moyenne, la majorité c'est 0 à 10 par semaine, c'est quand même pas beaucoup beaucoup, mais vous, par service, mais vous ramenez ça à l'échelle du CHUS, ça fait beaucoup. Et tout ça, ça transite comment? Et c'est identifié comment? C'est quand même une très bonne question à se poser. Donc l'opérateur est-il identifié sur cette action? Ben, la grande majorité répond non. Et d'autres répondent, ben oui, on le trace à la main, donc ce n'est pas vraiment une identification parfaite, on pourrait dire. Et à droite, est-ce que le patient, lui, est identifié? 50% répondent non, pas du tout. Et dans les 48%, les 48 qui répondent, ben oui, on l'identifie, quand on leur dit, vous l'identifiez comment? Bien, on pose la photo, on pose l'étiquette à côté de la plaie, puis on photographie ça avec notre téléphone, puis on le fait transiter par le mail, puis là, ça arrive sur le dossier patient. Enfin, on n'est pas tout à fait RGPD, puis ce n'est pas tout à fait ce qu'on attend d'un cheminement d'une information au niveau hospitalier. Quand on leur demande est-ce que vous voudriez collecter des infos avec des applications vraiment plus sécurisées, là ils sont très majoritairement d'accord, parce qu'ils aimeraient que ça remonte directement, ils aimeraient pouvoir faire une transmission médicale pour un avis à distance, ils imaginent même pour certains pouvoir suivre en pré-op et post-op, y compris au domicile du patient, mais en tout cas tout le monde est plutôt majoritairement positif sur cette attente, et là ils mêlent plusieurs réponses, puisque ça pouvait être multi-réponses. Oui, ils sont très favorables à une traçabilité, à un respect de la réglementation, à l'utilisation d'un outil institutionnel, et à ne plus utiliser leur téléphone portable pour avoir des photos des plaies de leurs patients. Alors il se trouve que dans cette enquête, eh bien, nous avons eu une réponse de l'équipe mobile de plaies cicatrisation Et nous avons ainsi un lien avec eux, puisqu'ils venaient juste en début 2024 d'utiliser sur des tablettes, là il faut équiper les services avec des tablettes, de faire un essai pendant 2 mois d'une application qui est CleverNet. Donc l'équipe de diabéto de plaies cicatrisation l'a utilisée, mais ainsi qu'une équipe de télésurveillance cardiologique. Parce qu'en effet, CleverNet peut permettre de prendre des photos et de faire remonter des informations vers le dossier patient. Donc nous en sommes à l'étape où nous aimerions que CleverNet, en effet, soit essayé également sur le Pulse, de façon à répondre à cette grande demande sur le CHU de Bordeaux de pouvoir suivre les plaies, les cicatrices, de façon extrêmement tracée, que ce soit opérateur ou patient. Je vous remercie.